C'est la deuxième heure de ce 1143e Sweet Home Chicago qu'on va passer ensemble jusqu'à 15h avec Bo Weevil dont on écoutera quelques extraits de l'album Blessing in Disguise, à commencer par ce What's Going Wrong.
I feel better and stronger, but will it last long? Catch me up later, sooner, when I'll be singing up my song.
L'invité de Sweet Home Chicago aujourd'hui, c'est Bo Weevil. Salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Ouais, ça va très bien.
Ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir de tes nouvelles. Et puis, à l'occasion de la sortie tout début mars de cet album Blessing in Disguise, je me disais que ça pourrait être sympa de discuter à nouveau. Donc, Bo Weevil, ton nom de scène.
Oui.
Est-ce qu'on peut révéler ton nom à la ville, ou est-ce qu'il est vraiment
secret? Bien sûr, mais il y en a plein qui le connaissent déjà.
Mathieu Fromont, donc aka Bo Weevil, qui est avec nous dans ce Sweet Home Chicago. Alors, comme presque à chaque fois qu'on a invité, en tout cas un musicien, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment tu es tombé dans la marmite. Moi, j'ai un grand chaudron ici à côté de moi, il y a une grande cuillère en bois, on va pouvoir délayer tranquillement, si tu veux bien, Bo. comment, il n'y a pas tout à fait un demi-siècle, mais quelques années après, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de toutes ces musiques, finalement?
Alors, moi, je suis tombé dans la marmite vraiment dès la naissance, hein, parce que je suis issu d'une famille de musiciens,
ouais.
Sur plusieurs générations, qui plus est, donc grands-parents qui étaient plutôt dans la musique classique. Mais toute la famille a toujours été dans les cordes. C'est notre spécialité familiale.
D'accord.
Voilà, ma maman, qui est toujours en activité, sous son nom, qui est donc Emmanuel Parnin, joue plein de différents instruments, les vielles à roues, harpes celtiques, épinettes des Vosges et tout ça. Et surtout mon père, qui lui est violoniste, enfin qui est multi-instrumentiste, il joue, son premier instrument c'est le banjo 5 cordes all time, et le violon avec lequel il a fait carrière, et la guitare et tous les instruments à cordes. Donc moi en gros, je suis né vraiment entouré d'instruments. Bon, moi, ce que je voulais faire, c'était de la batterie. J'avais des parents qui n'étaient pas toujours d'accord. On vivait à Paris à l'époque, donc c'était un peu compliqué, en effet, et pour le voisinage. Mais j'ai mis mes mains sur des instruments, et notamment la guitare, dès l'âge de 8-9 ans. Voilà.
Et donc, voilà, un environnement musical, avec peut-être aussi carrément des frères et sœurs qui jouent d'instruments aussi, ou pas du tout?
Alors non, je suis fils unique.
D'accord, voilà.
Je n'ai pas eu la chance d'avoir des frères et sœurs.
Bon, et donc forcément des parents qui aimeraient bien aussi que tu puisses être initié à l'un de ces instruments. Et directement la guitare, ou est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives sur...
En fait, voilà, bon, après toute mon enfance, je l'ai passé à proximité directe de studios d'enregistrement. Il faut savoir que, par exemple, avec ma maman, quand j'étais donc enfant, vers l'âge de 4 ans, on est parti vivre en Normandie, donc dans l'Eure, près de Conches-en-Ouche, dans un studio qui s'appelait le studio Frémontel, où j'ai passé plusieurs années de ma petite enfance, et où évidemment, c'était donc un studio d'enregistrement professionnel de l'époque, etc., où venaient régulièrement Johnny Hallyday, ou d'autres personnes d'ailleurs, et notamment tout le milieu folk progressif, folk de qui était très en vogue à l'époque.
Ouais.
Et donc, j'ai passé, quand je rentrais de l'école, j'aimais bien aller regarder les séances et c'est vrai que j'étais jamais très très loin de la batterie. C'était l'instrument qui me fascinait déjà très enfant et j'ai commencé, alors moi j'ai réclamé une batterie vers l'âge de 6 ans et on m'a à ce moment-là offert une paire de tablas. Bon, c'était pas la même chose que c'était pas ça que je voulais.
Non, mais ça reste de la percussion.
Voilà, mais mon premier instrument, c'est des tablas. Parce que j'en ai fait, donc, j'ai pris des cours particuliers pendant un ou deux ans à l'époque, 6-7 ans, donc. Et j'ai eu ma première batterie vers l'âge de 7-8 ans, je crois. Je m'y suis mis un petit peu, mais assez rapidement, je me suis orienté sur la guitare et les instruments à cordes.
D'accord, donc là, on est à la fin des années 70, début des années 80. Et ensuite est arrivée la guitare et peut-être déjà l'envie de jouer en groupe, l'envie de jouer avec d'autres musiciens, non?
Alors, à l'époque, je ne me posais pas cette question-là. Pour être tout à fait franc, moi, j'ai joué de la musique très jeune, ok? J'ai toujours chanté, même très jeune, avec ma mère ou avec en famille. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose de naturel dans la maison, quoi.
Ouais.
Par contre, c'est vrai que je ne pouvais pas envisager d'en faire mon métier. Ce n'est que plus tard, vers l'âge de 20 ans, donc en 92, que j'ai pris la décision d'en faire mon métier. Pour moi, c'était un métier où, évidemment, j'avais vu mes parents galérer avec, etc. C'était synonyme de galère. Donc, c'était pas, moi, le premier métier que j'ai voulu faire. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était tout ce que je savais faire. Donc...
Est-ce que, petite question entre parenthèses, et là, t'es pas obligé de répondre du tout, mais est-ce que tu aurais pu devenir enseignant, par exemple?
Enseignant, alors, non. Non, pour la simple raison qui est que je suis absolument totalement autodidacte et que je n'ai pas le sens de la pédagogie. C'est fait pas partie de mes talents. Après, ça m'arrive de donner des cours de musique, d'harmonica ou de guitare, non, mais ça m'est arrivé, quoi, de donner en tout cas des stages d'harmonica et tout ça. Mais la pédagogie ne fait pas partie de mes points forts, hein. Faut quand même le reconnaître.
D'accord. Et là arrive le fait que tu veuilles devenir musicien professionnel, je crois, fin de l'année 1994. Tu deviens pro, 95, c'est ça?
En 92, c'est Lee Hallyday, donc le beau-père de Johnny, qui a aussi été mon beau-père, en l'occurrence. Et c'est lui qui m'a motivé à faire la musique pour mon métier, qui m'a offert une guitare parce que je m'étais fait voler la mienne quelques années auparavant, et qui m'a dit d'y aller. Et en fait, en 92, j'ai intégré l'école du CIM à Paris, où j'y ai rencontré quelques amis qui allaient plus tard devenir mon tout premier groupe. Mais à l'époque, en fait, j'avais pas du tout le niveau pour être... faut dire que le CIM, c'était quand même une école de jazz assez poussée. Moi, j'avais un niveau assez médiocre, hein. Je savais jouer des morceaux de Johnny Hooker et de Chuck Berry, puis c'était à peu près tout, quoi. Donc, Donc, par contre, je jouais déjà de l'harmonica. Et c'est en fait avec l'harmonica que j'ai pu m'intégrer dans un atelier blues au Côte du Cime. Et c'est là que j'ai monté mon premier groupe. Et en effet, dans l'année qui a suivi, 93-94, j'ai déménagé sur Lyon. Je me suis basé à Lyon pendant quelques temps. Et c'est là où j'ai mis vraiment le pied dans le truc, quoi.
Et c'est là où tu as pris ce pseudonyme de Bo Weevil. Alors, Bo Weevil Blues, le charançon dont on parle quand on cultive le coton, qui est une saloperie qui empêche effectivement le coton de se développer. Quel est le sens
cet animal il se nourrit surtout du coton une fois cultivé, quoi. Ouais. Et il y a d'autres significations derrière le Bo Weevil, hein. C'est aussi un symbole pour le peuple noir du Sud de lutte contre l'oppresseur. Oui. À savoir que le Bo Weevil est très résistant et qu'il est difficile à... Voilà, donc il y avait aussi cette chose-là. C'est quelque chose que j'ai lu Talking That Blues, je crois que c'est Talk That Talk.
Talk That Talk de Jean-Paul Levesque.
Exactement, je crois que c'est là-dedans que j'avais repéré ce truc-là, déjà à l'époque, où j'avais acheté le bouquin dans les années 90.
Ouais, ouais, c'était et ça m'avait beaucoup édition, plu. Ouais. Et donc voilà, c'était cette espèce d'animal un petit peu rebelle et dont on n'arrive pas à se débarrasser, un petit peu comme un pou de la tête que tu as choisi, c'est sous ce nom-là que tu as choisi de te produire. Est-ce qu'il a fallu comme ça expliquer à moult journalistes, à moult organisateurs de festivals, pourquoi ce nom, ou est-ce que voilà, on t'a accepté directement comme étant tel?
On m'a accepté directement, mais évidemment, j'ai dû donner la définition du terme à peu près 2708 fois.
C'est ça.
C'est probable. The blue skies are around me. I'm flying over highway. Well, I know that you love me, but here I'm free. I'm free. The bidding on the dashboard. There's no spot I can afford.
Here I'm free.
Et alors, donc, à partir de 1995, il y a des scènes hein, qui se succèdent les unes aux autres. Moi, je me souviens d'une particulièrement parce que c'était sur Caen, hein, par chez nous, et c'était, oui. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Jazz à la Fac en 2001,
ah,
concert
oui.
organisé par Backstage, où avec un petit groupe, on avait ouvert pour toi, c'était le groupe Midwest.
C'était ah, oui, en 2001. Oui, d'accord, mais
oui,
en effet,
c'est
ouais.
énorme, ça fait plus de 20 ans, tu vois.
Oui, en effet.
Et voilà, c'était pas tout à fait la première fois que je t'avais vu jouer, mais moi, tu m'avais beaucoup impressionné d'abord par le fait que tu es capable de jouer tout seul de plein d'instruments. S'il y a des gens qui ont déjà vu Philippe Ménard, eh ben, vous collez des lunettes et la guitare de Johnny Hooker à Philippe Ménard, ça fait Bowievil. C'est ça, c'était ça un peu l'idée. Et voilà, tu te produisais en one-man band très volontiers, mais tu t'es produit en duo ou en groupe. Enfin, il y a eu plein de
choses. J'ai fait toutes les formules possibles.
Ouais, ouais. ouais. Même big band, même avec section de cuivre, cordes et tout.
Alors
ça.
Alors non, j'ai jamais fait ça. Mais en fait, si occasionnellement une fois, en fait, j'étais en remplacement de Vincent Buchet dans le Heritage Blues Orchestra.
Ah oui.
Et c'est la première fois que je jouais sur scène avec une section cuivre. Et j'avais été scotché par d'une part par la qualité des arrangements et de la musicalité des arrangements de cuivre sur ce spectacle, mais ouais et puis par le son parce qu'il était juste derrière moi. Moi je jouais donc l'harmonica.
C'était l'harmonica voilà pour remplacer Vincent Buchet voilà.
Ouais. Mmh. Et les cuivres étaient derrière moi et quand ça arrivait ça me faisait même ça me faisait lever les poils quoi voilà.
Alors il y a quand même des choses qu'on peut dire par rapport à ce que tu as fait au cours des années qui ont suivi, les années 2000-2010. T'as ouvert pour pas mal de gens qu'on peut qualifier d'importants, voire de très importants. Betty Lavette, ça parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même une des reines de la soul. Ça, c'était sur une belle scène parisienne à la Cigale.
Oui.
L'Olympia également pour Ben Harper, qu'on ne présente pas.
Oui.
Tu as joué également deux fois en première partie de Sharon Jones on the Dap Kings, la regrettée Sharon Jones.
Oui.
On peut citer également des gens qui ont joué juste après toi au Cognac Blues Passion, comme Robert Plant ou Hugh Laurie. La chanteuse Camille, dont tu as pu faire le super band aux Eurocaennes de Belfort, ou alors Jackie. Là, voilà, il y a pas mal de choses qui laissent forcément des souvenirs un petit peu indélébiles, même si ces artistes-là n'évoluent pas tous dans les musiques que tu représentais à l'époque.
Tout à fait. C'est vrai que, bon, à l'époque, je jouais vraiment un blues très traditionnel, hein, quand
très
même,
roots, ouais,
très roots. Et c'est vrai que avec ce type de musique, est quand même une musique sans être péjoratif, bien sûr, mais une musique de niche. Enfin, c'est pas grand public, on va dire. Mais ce qui, ouais, ça a été étonnant, c'est que, ben, le public de notamment des Eurocaennes de Belfort, on l'a emballé, c'était super. Je dirais que le public de Ben Harper à l'Olympia, c'était plus facile.
C'était plus facile parce que vous étiez plus dans le même idiome finalement.
C'est ça.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Figure-toi que quand il y a des gens qui ne vont jamais voir de concert de blues, il en existe bien sûr des millions, et qui découvrent un espèce d'ovni, un type par exemple tout seul avec ses lunettes de soleil, son chapeau, son costume à la Robert Johnson, assis tout seul avec une guitare et puis s'adresser à 2 ou 3 000 personnes comme ça d'un coup, je pense que de toute façon, même si on ne se qualifie pas de public blues ou d'amateur de blues au départ, ça laisse forcément des traces. Moi, je vais te donner un exemple tout précis et tout récent. Mr. Mad,
oui.
dans l'émission de TF1 qui s'appelle The Voice, il les a tous foutus par terre, les mecs, quoi.
J'ai entendu parler.
Et voilà, ça, c'est le genre de choses. Moi, ça me surprend plus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça qui disent, ben voilà, je suis allé devant un public qui ne connaît pas le blues et ils ont kiffé, ils ont adoré. Ça, tu peux en témoigner aussi, donc, Matt.
Hein. Oui, bien sûr, absolument. Ouais.
Et donc, voilà, tout ce cheminement qui t'a vu, en fait, éprouver toutes les formations possibles, du one-man band jusqu'effectivement au groupe un petit peu plus étoffé, un petit peu plus complet. Et puis, il y a eu quelques albums pour Dixie Frog. Moi, je me souviens qu'à chaque fois, c'était une franche réussite. On a pu en parler à l'occasion à l'antenne, notamment le dernier. La dernière fois que je t'ai vu, c'était en concert, c'était chez Dominique Bouillon.
Oui.
En 2017 pour le festival Bar et là oui. Tu évoluais dans un répertoire qui était carrément pas blues roots du tout, on va dire, mais c'était franchement très très excitant. Là encore, avec ce nouvel album que tu sors ce mois-ci, Afro Latin Blues, hein, comme tu l'écris sur le recto de la pochette, cet
oui.
album Blessing in Disguise, là tu explores de nouveaux horizons encore. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené, pas forcément à changer ton fusil d'épaule en tout cas, mais à explorer tous ces nouveaux univers?
C'est univers-là. Ouais, ouais. Alors, bien sûr, moi, en tant que fan de blues, j'ai évidemment écouté quasiment exclusivement pendant très longtemps du blues, toutes les formes de blues, depuis Charlie Patton jusqu'à des blues plus actuels, voilà. Mais c'est le truc, c'est que j'ai toujours et de toutes les musiques. Moi, j'ai été éduqué avec une ouverture absolue musicalement, donc j'écoutais aussi bien du jazz que de la musique africaine, que des musiques traditionnelles du monde entier, que du rock, du funk, des trucs très actuels, de variété aussi, pourquoi pas. Et enfin, la seule chose que je n'ai jamais vraiment écoutée, c'est la chanson française, parce que tout simplement, elle n'était pas très présente durant mon enfance et mon adolescence. C'était pas la musique qu'on passait à la maison, c'était pas notre truc particulier, excepté peut-être quand même quelques grandes figures que sont, et je vais citer cette figure en premier parce que j'admire absolument l'artiste, qui est Jacques Higelin.
Ah oui.
Voilà. Jacques Higelin qui, dans son ouverture, bon, avec un verbe particulièrement bon aussi, hein, évidemment, mais dans son ouverture a touché à tous les genres, et j'ai toujours admiré la façon dont il abordait aussi bien la musique africaine que le rock, que n'importe, voilà. Et cette attitude-là, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué déjà dans ma jeunesse. Évidemment, après, plus tard, dans les années 90, j'ai découvert les artistes que sont Alif Farka Touré, qui a donc été produit par Ry Cooder, dont je suis absolument fan, parmi d'autres, bien sûr. Donc Alif Farka Touré, et il y a eu aussi un autre album, un peu plus tardif, qui s'appelle Afrocubisme, qui était produit, pas par Ry Cooder, mais dans le même label, d'ailleurs, World Secret. Et donc, cet album, où il y a ce mélange entre la musique africaine et cubaine, enfin la rencontre entre des musiciens maliens et cubains. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi émerveillé, j'ai adoré tout de suite. Et voilà, moi j'avais ce désir de faire évoluer mon blues vers ce côté. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'Afrique. Hein. Pour moi, c'est le centre de tout, c'est le centre de toutes les musiques actuelles. Bon, c'est la racine du blues. Mais c'est la racine de beaucoup d'autres choses, en fait. Et les musiques des Caraïbes ont largement aussi inspiré le blues à partir de la Nouvelle-Orléans, etc. Donc il y a une influence qui m'a toujours plu. Voilà,
dire. Mais ça, c'est une belle démonstration, effectivement, de ce décloisonnement de la musique et des musiques que tu écoutes. Moi, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre parler Taj Mahal.
Calypsonians were all gathered together, singing such a mournful tune. I don't know if it was in the summertime, it could be the month of May or June. Believe me, baby, now I love you the best. When I find myself, I poke out the chest. Oh, over loving, over, over, over.
Ouais, quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre parler Taj Mahal.
Ah bah moi je suis, ouais, là, ça fait partie des artistes qui m'ont donné envie de sortir des sentiers battus du blues, parce que le blues j'adore, mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps j'avais envie de faire autre chose. Voilà, ça c'est, j'avoue, j'avais envie toujours dans la même lignée que le blues, parce que pour moi ce n'est qu'une évolution en fait. Hein, c'est pas un autre monde, hein, ça reste, il y a un lien que moi je vois clairement en tout cas. Et voilà, enfin c'est le point de départ. Alors il a fallu du temps, évidemment, quand j'ai voulu envisager un projet de cette nature. Ça date d'il y a longtemps, hein, je faisais encore que du blues à l'époque, mais j'avais déjà ça dans la tête. Et déjà sur l'album Split Up Blues, on entend une intention qui a été un peu plus davantage poussée sur l'album Mr. Boweevil que j'ai fait en solo, où j'abordais certaines couleurs africaines. Le dernier en date, qui est donc Son of Pride, moins, mais quand même, sur certains morceaux, on entend ce côté afrobeat, etc. Et là, j'ai décidé d'y aller Carrément.
Voilà, et puis c'est chose transformée, chose réussie. Moi, ce que je te proposerais, oui. Matt, si tu veux bien, c'est qu'on écoute allez, des extraits, des courts extraits de ce tout nouvel album. Mais peut-être avant encore une question à propos du titre de l'album, Blessing in Disguise. On pourrait traduire par une bénédiction déguisée. C'est comme ça que tu l'entends?
Alors, c'est la traduction littérale, mais ça veut dire en fait un mal pour un bien. C'est l'équivalent en anglais de un mal pour un bien.
D'accord. Voilà. Bah, tu vois, c'est une expression anglaise que je ne connaissais pas. Il va falloir que je revoie mon petit Jean-Paul Levé illustré parce que Talking That Talk, effectivement, quand on écoute beaucoup de musique, on peut pas lire en même temps. Et voilà, moi qui suis à peu près illettré dans tout ce genre de choses. Non, mais tu as raison de le préciser. Moi, je te propose de réagir à ceci, s'il te plaît. Alors, on est d'accord. Percussion, guitare, harmonica.
Oui.
Alors, et ça, c'est des trucs qu'on entend nulle part ailleurs, j'ai envie de dire.
Alors là, c'est une vidéo, c'est la musique tirée d'une vidéo qu'on a faite en duo.
Exactement.
Qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est mon système de One Man Band, dans lequel j'utilise pas des instruments, enfin une grosse caisse et une caisse claire comme la plupart des One Man Band, ce que je faisais avant d'ailleurs. Là, j'ai développé un autre truc avec des stomps, quoi, et c'est ma compagne qui fait les petites percussions.
Nushka.
À savoir, sur ce morceau-là, les claves, par exemple. Mais ça peut être aussi des bongos, des maracas, des gyros, et de genre de gyros, etc.
Et ça donne ça, et oui. Bon, ils veulent. Alors là, on appelle ça le Bow Weevil Combo, c'est bien ça, hein?
Oui, c'est la formule que j'ai appelée combo parce que avant c'était solo, one man band, maintenant on est deux, donc c'est plus one man band, donc c'est combo. Deux en un, voilà.
Allez, voilà autre chose.
Por tus curvas oscuras, tu calor agitado me entrena.
Un titre qui s'appelle Ciudad, qui veut dire la ville, où tu chantes en espagnol, avec toute une orchestration derrière, percussion, batterie, basse, et puis toujours ta compagne qui s'accompagne d'un autre instrument à percussion dont le nom m'échappe, je t'avoue.
Le gyro, ça s'appelle gyro.
Ah oui, c'est vrai, ouais, d'accord. C'est des cours de CM2 qui remontent tout doucement, là, tu vois, c'est, effectivement. Et donc, le parti pris de ce changement de langue pour t'exprimer, l'espagnol, il est venu d'où?
Alors, ça vient de ma compagne, en fait, qui est hispanophone et qui a composé les textes de cette chanson, notamment. En fait, j'avais déjà la trame d'un morceau et j'ai lancé une première idée. Et puis, de toute façon, la création, on ne sait jamais comment ça se passe. C'est toujours une question de ping-pong. En tout cas, ce morceau a été composé assez rapidement, il y a quelques années de ça. Il est resté, il a fallu plusieurs années avant qu'il soit produit, ce qui est le cas aujourd'hui. Et là, ce qu'on entend là, c'est donc la version live avec de l'orgue, la version disque étant avec des violons.
Eh bien, on entend l'orgue, justement. Bon, là, je citais tout à l'heure Taj Mahal comme étant un artiste qui a eu un petit peu la même démarche à la frontière entre les États-Unis du Sud et les Caraïbes. Là, moi, je verrais bien un petit solo de Carlos Santana là-dessus, carrément. Hein. Vraiment.
Ça
me rappelle l'album que Carlos Santana avait enregistré avec John Lee Hooker. Je crois que ça remonte à 1992. Relancé la carrière de John Lee Hooker. Enfin, en tout cas, voilà, pas au niveau du chant hein, là-dessus, mais au niveau de l'ambiance. Voilà,
ouais, non, mais j'avoue qu'en effet, ce morceau avec John Lee Hooker, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et qui a probablement été à la base. Ça m'a inspiré, ça c'est certain.
D'accord. Oui. Alors, c'était pas pour dire que tu avais plagié, on est d'accord. Effectivement, on est tous le produit de nos propres inspirations. Mais là, voilà encore autre chose qui démarre avec de la percu. Le titre, c'est What's Going Wrong. Et là, avec une guitare un petit peu plus présente, on va dire en riff blues finalement.
Ah ben.
S'en est,
hein?
Ah, on est bien d'accord.
I guess I'm in a tangle, buzzing in my head.
Et puisqu'on est dans les comparatifs, parce que c'est vrai que ça permet aussi de fixer les choses, moi là-dessus, oui. J'aurais bien vu le piano de Dr. John avec son chant, bien sûr.
Oh, hein? Oui. Ah ouais, pourquoi pas.
Moi, je trouve que t'as une voix, là, Dr. John, là-dessus, moi, ça m'inspire bien. Avec toujours Anouchka à la seconde voix. Alors, ce sont des morceaux qu'on va écouter en entier, bien sûr, en parallèle de cette interview, que ce soit juste avant, pendant ou après, parce que c'est toujours réducteur de passer des extraits. Mais là, il faut écouter l'album en entier. Il s'appelle Blessing in Disguise. Cet album qui est sorti le 1er mars dernier et que tu vas bientôt défendre sur scène. J'imagine qu'il y a déjà des concerts qui se mettent en place, malgré le fait que on se remet tout doucement quand même de cette épidémie qui vous a pris. Priver tous les artistes de venir nous voir, de venir nous rencontrer, nous le public.
Ben bien sûr, voilà. Ben là en ce moment, depuis plusieurs mois, on est au taquet avec KBKC Artistes, la production avec laquelle je travaille pour développer des tournées. Là pour l'instant, nous avons en tout cas le Blues sur Suresnes le 12 mai, si je ne m'abuse.
12 mai, Blues sur Suresnes, donc chez l'ami Begam.
Voilà, et puis d'autres tournées, qu'elles soient en duo ou en sextet. Donc je propose aujourd'hui deux formules. Le sextet qui est vraiment la formule avec laquelle je peux le mieux défendre l'album avec ses arrangements, c'est-à-dire parce qu'il y a beaucoup d'arrangements sur l'album, des arrangements de violon, de chœur, pas de cuivre, mais d'harmonica, parce que j'ai fait tout ce qui était arrangement type cuivre, j'ai fait tout à l'harmonica en fait. Et au violon, enfin c'est avec un ami, John Joe, qui est venu jouer du violon sur l'album. Donc voilà, le sextet permet en effet de vraiment de défendre les morceaux avec la complexité, par la totalité des arrangements, et sinon en duo pour les versions, c'est plus léger évidemment, pour les plus petits festivals.
Pour les plus petits endroits, effectivement. Et donc avec ce répertoire radicalement nouveau qui nous propulse dans d'autres univers et qui va, j'espère, je pense, te propulser vers des scènes que tu n'as pas encore foulées. Tu n'as pas encore fait exactement toutes les scènes de France, même s'il y en a eu plus de 2000 d'après ce que j'ai lu. Oui. Mais il y a des festivals qui concernent aussi ces musiques-là, des Caraïbes. Et là, je pense que KBKC Artiste sera bien inspiré d'aller les contacter. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah bah bien sûr, c'est de haut, oui, tout à fait. Voilà.
Bon, écoute, c'est tout ça qu'on peut te souhaiter. Moi j'aimerais bien souhaiter longue vie à Bo Weevil. C'est déjà chose faite depuis plus de 25 ans, mais ça va continuer parce que là, tu es un artiste déjà expérimenté, mais qui sait rebondir et se remettre en question. Moi, je dis que ça s'appelle aussi prendre des risques et sortir de sa zone de confort, ce que tu viens de faire.
Ah, c'est exactement ça. Ouais, en effet. Ce n'est pas son risque, je sais. Que parmi mes vieux fans, mes fans de toujours, qui aiment le côté vraiment roots de ce que je faisais avant, il y en a certains qui sont un petit peu, qui disent, qui sont un peu perdus et par rapport au choix. Mais ça, c'est quelque chose que j'assume totalement parce que la musique, si je la fais pour les autres, mais je la fais aussi essentiellement pour moi au départ. Et pour moi, aborder ce type de répertoire et cette recherche dans l'écriture, dans la composition, c'était juste une nécessité en fait. C'est pas Je ne pouvais pas continuer à faire que du blues, mais j'en joue toujours par toutefois. Quand même.
Voilà, et on va le dire autrement, c'est pas une fantaisie, c'est une véritable véritable choix artistique. Et en tout cas, moi je loue encore une fois la démarche parce que dérouter entre guillemets certains vieux fans, c'est peut-être aussi au profit d'un nouveau public et peut-être plus jeune aussi, qui sait.
Et ben voilà, c'est exactement ma démarche. Right to the bone. The loneliness is my cue. Again I feel blue. Afar, too far. Slowly I roam, singing in my lounge all alone. The loneliness is my cue. Again I feel blue. Yeah.
on my back, smoke blowing out of my stack. Loneliness is my jewel, again I feel blue. I clicked my eyes, crawl over, try, nothing that I could reply. Loneliness is my jewel, again I feel blue. Nevertheless, I did well out of a calling. All of my years I've been called to be wise. Your level is like blessing in disguise. I mean a blessing in disguise.
Petite équipe de Radio 666 qui te suit depuis des années et puis moi-même en particulier dans Sweet Home Chicago. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui et puis de diffuser ta musique, ce sera le cas dans les prochaines émissions aussi. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser à laquelle tu aimerais quand même répondre, Matt?
Non, pas particulièrement, enfin, tout va bien. Voilà, je suis très heureux de cette petite interview.
C'est cool.
Et d'avoir, je suis content d'être là.
Génial. Eh ben écoute, on se revoit sur la route du blues. Je sais pas si ce sera cette année, au printemps, ou à l'été, à l'automne, j'en sais rien, mais voilà, qui sait, hein. On se voit pas tous les ans, mais à chaque fois,
ça fait déjà
un moment, hein. Je pense que c'est 2017. Eh ben écoute, ce sera peut-être 2022 la prochaine fois.
voilà, je l'espère bien.
Merci à toi, Matt. Bon Weevil dans la radio.
Salut Marc, à tout bientôt.
Salut, à bientôt. Salut Matt.
Salut.
Por tus curvas oscuras, tu calor agitado me entrena, mirando tus brazos húmedos, tu letargo me domina, tu olor me toma la garganta, tu sonido brutal me molesta. Abrazan mi corazón.
Soy tu madre, tu puta amiga. Yo soy el lugar donde descansas. Soy tus raíces profundas. Amantes por la vida. Vienes en mí, respiras metoda. Visitando
la ternura de la hierba fresca, la sal.
Canadá y el azul del mar.
La blancura de montañas, te promesé, hombre, la venganza.
Ira terrible de tu barriga.
Mi corazón no podría respirar. Mi corazón no podría respirar. Mi corazón no podría respirar.
Merci encore à Beau Weevil pour cette interview. On prolonge le plaisir avec un dernier titre. Non, sans vous avoir rappelé qu'on a écouté tout à l'heure depuis 14h What's Going Wrong dans l'album Blessing in Disguise, dans le même album Up the Road. Et puis, il y a eu un petit extrait de l'album de Taj Mahal 1997 avec The Calypsonians. Puis ensuite, on est passé à Blessing in Disguise, le titre album, puis Through That. Toujours Beau Weevil, voici Give Me a Try.
Give Me a Try, signé Bo Weevil dans l'album A Blessing in Disguise. On continue en blues avec la rubrique 50 Years After en 1972 sur l'album Bad News Is Coming. C'est Monsieur Luther Allison.
I got the bad news this morning. I think I'm gonna have to leave right away. I think I'm gonna have to leave.
Le grand Luther Allison en 1972 avec l'album Bad News Is Coming. Et puis, écouter cet album A Blessing in Disguise de Bo Weevil m'a donné envie de réécouter ses albums précédents. Et je voulais vous faire profiter juste pour un titre de As a Striving Lonesome Bull, l'album qu'il avait enregistré sous le nom de Mr. Bo Weevil en 2013 chez Dixie Frog. Le titre qu'on entend, c'est I Don't Wanna Be No Rebel, Bo Weevil.
Somewhere where people trust in government, where there's no need for punishment, that peace in here, no there. I wanna live somewhere where many hit my Toronto drives, where no one needs to cool. Peace in here, no there. I don't want to be no rebel. I don't want to be no rebel. No, no, no. I don't want to be no rebel. But I guess someone has to rebel. Somewhere where no one suffers from neglect, where all shall mutual respect, that peace ain't here no there. I wanna live somewhere where no one are poor or no one are rich, where no one's hunter. Peace in here, no there. I don't want to be no rebel. I don't want to be no rebel. No, no, no. I don't want to be no rebel. But I guess someone has to rebel. Somewhere where no one will abuse another.
sister or our brother. That place ain't here nor there. I wanna live somewhere where we'll live at peace with nature, where we protect our children's future. That place ain't here nor there. I don't want to be no rebel. I don't want to be no rebel. No, no, no. I don't want to be no rebel. But I guess someone has to rebel.
C'est la fin de ce Sweet Home Chicago numéro 1143. On va se quitter avec quelques notes de l'album Va savoir où ce chemin nous mène, signé Laurent Choubrac, Jean-Christophe Panico, qu'on retrouvera en invité la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Triste et froid n'est pas comme les autres. Aujourd'hui, faire semblant me pèse. Et ce qu'on attend de moi, ce que je porte à bout de bras, parmi ces choses, pas une qui me plaise. Mais pourtant je l'aime cette vie, toutes ces extases faciles, ces victoires à la petite semaine. Congratulations grandioses, alors qu'on n'est qu'une petite chose, et va savoir où ce chemin nous mène. Encore une fois, je saurais rire, serrer ses mains serviles, donner le change et rendre coup pour coup. Encore une fois, prêt à séduire de cette ville et espérer tenir bon jusqu'au bout. J'aurais pu disparaître, refuser le combat, rester dans les masses anonymes, mais je n'ai pas su résister à l'ivresse des destins forcés, des pions qui ne voulaient plus vivre immobiles. Encore une fois, je saurais rire, serrer ses mains serviles, donner le change et rendre coup pour coup. Encore une fois, prêt à séduire les ombres de cette ville et espérer tenir bon jusqu'au bout. Mais je sens, je m'égare, j'ai pas le droit de dire tout ça. Je vais me reprendre pour de bon, c'est sûr, et puis regagner l'arène avec un pansement sur mes peines. Et j'étoufferai cette voix en moi, j'avancerai à petits pas. Mais va savoir où ce chemin nous mène.